qui est Jésus. Blaise Pascal a dit de Jésus, « Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. » Alors, Jésus enseignait ses disciples par des paraboles. Il puisait son inspiration dans les faits concrets de la vie de tous les jours, notamment le travail du semeur, la graine de moutarde, le chat d'une aiguille, vous savez sans doute, ces petites ouvertures qu'il y avait dans les murailles, non pas les trous que pouvait faire une aiguille, le cep, un grand banquet, ou même une porte, comme l'a rappelé Samuel tout à l'heure. Et parfois, ce n'était pas sans explication supplémentaire pour les disciples. Ils les prenaient à l'écart et puis leur expliquaient. Jésus faisait également des miracles. D'ailleurs, le passage choisi pour ce matin suit la guérison curieuse d'un aveugle à Bethsaïda. Jésus et ses disciples marchent en direction de Césarée de Philippe, qu'il ne faut pas confondre avec Césarée, située sur la côte méditerranéenne. Césarée de Philippe, c'est cette ville bâtie par le tétrarque Philippe, non loin des sources du Jourdain au nord, et qui servait notamment de lieu de culte pour le dieu Pan. On va voir si la technique marche. Ça semble marcher. Alors Jésus saisit cette occasion en chemin pour demander à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» ou formulé autrement « Qui suis-je au dire des hommes ?» Alors là, vous remarquerez que la question est impersonnelle. Et Jésus va se servir de l'opinion publique pour enseigner ses disciples. Alors les disciples répondent à cette question que certains croient qu'il est Jean-Baptiste. Peut-être certains croyaient à la résurrection des morts, on le sait. En tout cas, c'était l'avis d'Hérode, semble-t-il, qui voyait en Jésus le spectre de Jean-Baptiste qu'il avait fait décapiter. D'autres voient le retour d'Élie, qui n'avait pas connu la mort. Réponse qui faisait sans doute référence à la prophétie de Malachie. On le voit en Malachie 3:23, qui traite du retour d'Élie. D'ailleurs, c'est assez curieux parce qu'en Jean 1:21, il est posé exactement la même question à Jean-Baptiste par des sacrificateurs et des lévites qui lui demandent « Es-tu Élie ?» Alors d'autres personnes encore voient en Jésus l'un des prophètes. Cet avis populaire au sujet du Christ apparaît dès le chapitre 6 de l'évangile de Marc. Lorsque Jésus, souvenez-vous, il envoie les disciples, en fait, deux par deux, pour prêcher la repentance. Alors, en lisant cette réponse, je me suis interrogé, mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une palette plus large de réponses pour les gens de l'époque? Est-ce que Jésus n'était pas vu aussi comme un guérisseur, un rebelle à l'autorité juive, un beau parolier, la bouche remplie de belles paroles et de belles paraboles, tout simplement le fils du charpentier pour certains? Certains l'ont même pris pour un fou, un rabbi et même un possédé. Alors, selon ce que rapportent les disciples ici, la foule a quand même, le peuple, a une haute estime de Jésus. Mais malgré cette haute estime, la vue est approximative. Plus que ça, elle est erronée et elle rabaisse finalement le Christ. D'autres personnes que le Christ a croisées donnent une toute autre réponse. Samuel a fait référence à Jean-Baptiste, qui le voit comme l'agneau qui ôte le péché du monde, ce qui me semble déjà plus juste. L'aveugle né que Jésus guérit et que l'on interroge ensuite répond tout d'abord que Jésus est un homme. Là, c'est le premier stade de sa réponse. Puis on vient le questionner à nouveau, Et là, après, il répond, c'est un prophète, donc il monte d'un cran. Et lorsqu'il rencontre Jésus, qu'il reconnaît sans jamais l'avoir vu, il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Remarquez cette progression, un homme, un prophète, le Fils de Dieu. On retrouve d'ailleurs la même progression chez la femme samaritaine que Jésus va trouver quand elle puise de l'eau. Ce qui est certain, c'est que personne ne peut se comparer à Jésus. Aucun des hommes de la Bible ne le fait, et aucun homme aujourd'hui ne pourrait le faire. Mahomet, le fondateur de l'islam, a été le premier à violer ses propres lois lorsqu'il dépassa le quota de femmes qu'il avait lui-même fixé. Quant à son œuvre, on le voit la répandre avec la violence et le sang, alors que Jésus le fait avec amour, sans jamais avoir trahi sa ligne de conduite, ni jamais avoir versé le sang de quiconque, hormis le sien, son propre sang, pour ôter le péché du monde. Alors, frères et sœurs, en 2012, qui dit-on que je suis ? Qui est Jésus pour les hommes d'aujourd'hui ? Je vous invite à... J'ai fait l'expérience à en discuter avec vos collègues, poser la question tout simplement. Mais c'est qui Jésus pour toi ? Alors, pour Wikipédia, Jésus de Nazareth, c'est juste un juif de Galilée, né vraisemblablement entre 7 et 5 avant l'an 0. Si vous cherchez un petit peu aussi sur le net, vous trouverez que certains affirment que Jésus était un grand philosophe. Le premier communiste après Spartacus, certains disent. D'autres, un idéaliste ou un anarchiste. Vous entendrez même, frères et sœurs, que Jésus est un extraterrestre parti semer la bonne parole sur d'autres planètes, si on l'en croit la secte de Raël, l'ex-chauffeur de la T2C. Les musulmans d'aujourd'hui et les juifs de l'époque se rejoignent voyant en Jésus l'un des plus grands prophètes. Alors que cela soit à son époque comme à la nôtre, la véritable identité de Christ suscite de nombreuses interrogations et des réponses parfois farfelues. Et surtout, ça me semble très loin, vraiment très loin de la vérité que nous enseigne la parole de Dieu. Alors, je me suis posé la question aussi de la légitimité, justement, de cette interrogation. Cette première question, en apparence, semble inutile. Et je pense qu'elle trouve tout son intérêt par la suivante qui est posée. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? En fait, c'est une double question que pose Jésus. Que dit le peuple ? Et ensuite, que dites-vous personnellement ? La question ici est personnelle. Alors, pourquoi Jésus ne pose pas la question personnelle, c'est-à-dire la seconde, directement ? Pourquoi il ne s'adresse pas directement aux disciples pour connaître leur avis personnel ? Est-ce que Jésus se soucie de la vie publique ? Je ne pense pas que Jésus soit homme à se soucier du qu'en dira-t-on ou des commérages. Il est bien plus soucieux d'enseigner ses disciples sur qui il est vraiment. Et il profitera d'ailleurs de cette occasion pour les informer sur la finalité du plan de Dieu. Mais surtout, Jésus veut que ses disciples se positionnent. Malgré ce que dit le monde de lui, il veut savoir s'ils sont influencés par l'opinion publique, s'ils vont continuer à marcher avec lui, s'ils vont tenir ferme sur leur position. Au verset 31, on lit ceci. La technique, visiblement, n'a pas marché. C'est pas grave. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Jésus est à une étape ici de son ministère où il est important pour lui de savoir si ses disciples vont tenir ferme sur leur position. Et en conséquence, il les enseigne sur ce qui doit lui arriver afin que ses disciples saisissent ce qui attend Jésus et qu'ils réalisent progressivement aussi quelles sont les implications pour eux-mêmes, quelles seront les conséquences pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, si on regarde le verset 33, on s'aperçoit que les disciples, à commencer par Pierre, ont beaucoup de mal à se projeter et à anticiper cela. Pierre n'arrive pas à comprendre la portée de ce que dit Jésus. Il se fait d'ailleurs reprendre sévèrement par le maître. À la question de Jésus, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est Pierre qui répond en premier. C'était le sanguin du groupe, il dit « Allez, on y va. » Et Pierre, « Je vais répondre pour le groupe. » Et il a raison. Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Alors la réponse de Pierre est intéressante. Pourquoi ? Parce que Christ correspond en grec, la langue qui était parlée et écrite à l'époque, au mot araméen « Messie », qui signifie « oint ». Donc ça désigne en fait le futur roi davidique, ce qui peut expliquer aussi la réaction de Pierre et son incompréhension lorsque Jésus révèle qu'il sera livré et exécuté par les Romains. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Si Pierre, par sa réponse, montre qu'il a conscience que Jésus est le Messie, en fait, sa réaction montre qu'il semble encore espérer que Jésus soit le libérateur politique venu les libérer de l'occupation romaine. Voici pour la réponse de Pierre. En se détachant un peu du texte, et bien qu'anachronique, voyons celle de Jean, parce qu'elle me semble très intéressante. Elle figure en fait dans le préambule de son évangile. Elle parle de la lumière du monde, sujet abordé aussi la semaine passée. Je vous le lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Je saute quelques versets qui parlent de Jean-Baptiste. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Dans ce texte, souvent mis en parallèle avec celui de la création en Genèse 1, Jean fait le lien entre Jésus, qui n'est pas Jean-Baptiste, ressuscité des morts, ni réincarné, comme certains pouvaient le penser. Non. Jésus, pour Jean, est l'incarnation de la parole, la lumière du monde. Il est la vérité, l'alpha et l'oméga, le créateur du monde et le sauveur de tous ceux qui croient en son nom. Alors, quelle est la réponse à la question de Jésus? Quelle est la réponse de Jésus lui-même? Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est la réponse qu'il fait à Thomas, que vous pourrez lire en Jean 14, 6. Et c'est intéressant parce que Jésus n'a pas dit « Je suis un chemin parmi tant d'autres, une vie au sens d'un mode de vie qu'on pourrait adopter de vivre plutôt qu'un autre, une vérité parmi toutes celles qui circulent dans notre monde. » Non, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et là, Jésus insiste sur sa véritable identité, afin que les disciples soient fermes sur leur position et que malgré le monde qui dit tout et n'importe quoi à son sujet, les disciples ne perdent pas de vue qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Alors, c'est curieux parce qu'on ne s'est pas concerté non plus. Samuel a parlé de porte tout à l'heure. C'est précisément l'exemple que je vais prendre. Ce matin, en fait, vous êtes passé par au moins une porte, celle du fond, mais vous êtes passé par bien d'autres portes, chez vous, votre voiture. Alors, si Jésus frappe à celle de votre vie, je vous invite à lui ouvrir. Elle le sait y rentrer. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Jean 10, les versets 7 à 9. Alors, quel genre de brebis je suis? Celle qui appartient au bon berger? Ou celle de Panurge, qui suit les foules aveuglées, prête à me noyer? Jésus est donc le Christ, c'est-à-dire le Messie. Il est la lumière, il est la vérité, il est le chemin et la vie. Il est la porte. Et il est le bon berger. Il est le Fils de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Qui dites-vous que je suis? Alors, quand j'étais ado, je fréquentais les études bibliques du mardi soir, et très jeune, j'ai réalisé que j'étais pécheur. Et puis, je connaissais Jésus. Je savais que seul Dieu pouvait me pardonner mes péchés. Je connaissais donc l'œuvre du Christ à la croix. Mais je n'étais pas sauvé. Je n'étais pas sauvé. Car tout simplement, je n'avais pas accepté personnellement le sacrifice du Christ pour ma vie, pour mes péchés. En fait, je croyais de la tête et non du cœur. Que dit Philippe à l'eunuque en acte 8, 37 ? Si tu crois de tout, je vous écoute, de tout ton cœur. Alors, quand je l'ai accepté, eh bien, Jésus est devenu mon sauveur et mon Seigneur, celui qui a sauvé mon âme et ma vie. Au point que le choix même d'un t-shirt ou d'une cravate devrait être conduit par mon appartenance à Christ. Ça va peut-être paraître extrême, mais prenons l'exemple du t-shirt. Oui, frères et sœurs, croyez-vous qu'il serait acceptable pour un chrétien, un petit Christ, de revêtir un t-shirt avec une femme nue dessus, par exemple ? Est-ce que nos choix sont guidés par le Saint-Esprit, par notre appartenance à Christ ? C'est l'attitude en premier qui fait de nous de bons témoins. Les paroles viennent ensuite. Alors, je vous ai dévoilé la fin du passage de ce matin. Voilà comment se termine ce court passage. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Le passage se termine par une recommandation sévère que j'ai trouvée tout à fait surprenante. Parce qu'en fait, ici, le Christ en fait, s'oppose à ce que soit diffusée sa véritable identité. C'est-à-dire qu'il révèle sa véritable identité aux disciples, il les enseigne sur sa véritable identité, et là, il leur dit, mais non, mais vous le dites à personne, quoi. Et alors, c'est assez curieux parce que c'est pas la première fois que Jésus fait ça. Pendant son ministère, il fait d'ailleurs le même avertissement aux démons, en Marc 1,34, pardon, qui veulent dévoiler sa véritable identité. Il les empêche. Alors, pourquoi un tel avertissement? Pourquoi Jésus s'oppose à ce que soit diffusée sa véritable identité? Je pense que la réponse tient dans le fait que chaque chose en son temps. Et le temps, ici, n'est pas encore venu pour que le Fils de l'homme soit élevé. Ici, on voit très clairement que pour Jésus, le chemin du Messie passe inévitablement par la croix. Or, les disciples, et à plus forte raison les foules, étaient incapables d'accepter le message de la croix. Ce n'est qu'après la résurrection qu'ils le pourront. Alors aujourd'hui, il est évident que cette recommandation n'est plus d'actualité. Voyons, frères et sœurs, un petit exemple de ce que peut faire le Christ dans une vie et de comment s'y prennent les disciples et les apôtres pour diffuser sa véritable identité après sa mort et sa résurrection. Alors, l'histoire que l'on va voir pour illustrer ce passage de l'Écriture, est une histoire de porte, de nouveau. Comment bien gérer ses entrées et ses sorties pour ne pas se prendre tout simplement la porte. Il s'agit de l'exemple du geôlier, que l'on trouve en Actes 16, 23 à 34. Je vous résume un peu le passage. Donc Paul et Silas, transformés par Christ, parcourent en fait le monde romain pour diffuser le message de l'Évangile, la véritable identité du Christ. Alors, ils arrivent à Philippe et ils rencontrent là, entre autres, une esclave qui fait de la divination. Et ils la délivrent. Et en fait, ça leur vaut d'être mis en prison puisque ça crée un manque à gagner pour les maîtres de cette esclave qui profitait de son don de divination. Une fois en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le Seigneur. Donc, en fait, ils continuent à témoigner. Ils continuent à témoigner leur foi aux prisonniers. Et puis, soudain, un tremblement de terre survient, ouvrant toutes les portes de la prison. Et c'est là que le geôlier, on dit geôlier ou geôlier, j'y arrive jamais, geôlier, accourt en constatant le désastre. Il voit les cellules ouvertes et il s'apprête à se donner la mort. Et Paul, en fait, l'arrête juste avant qu'il se suicide. Et le geôlier, qui avait sans aucun doute entendu le message de l'Évangile par les louanges de Paul et Silas enfermés, réalise alors le besoin de repentance et du salut en Jésus-Christ. Il invite Paul et Silas chez lui et toute sa maison est baptisée. Alors revenons au protagoniste de cette histoire. Paul, en fait, c'était la fine fleur des persécuteurs de l'Église primitive, celui qui a probablement ordonné la lapidation d'Étienne, qui peut-être y était présent même. Et sur le chemin de Damas, ce Saul de Tarse fait la rencontre directe de Jésus. Et là, la porte de son cœur dur, cède. Le Saul de Tarse devient le Paul de Christ. Paul et Silas se retrouvent enchaînés, battus, puis jetés en prison. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est leur réaction face à la persécution. Se plaignent-ils ? Pleurent-ils sur leur triste sort ? Non, ils chantent, ils prient, ils continuent à témoigner. Et leur louange, je crois, va permettre la réaction du geôlier, qui entend parler de l'Évangile. Dieu va utiliser cette situation, a priori désespérée, pour sa gloire. Alors, imaginons une petite séquence américaine, hein, tremblement de terre, toutes les portes qui s'ouvrent et tout, et puis tous les prisonniers qui commencent à courir dans tous les sens pour trouver la sortie. Il fait un peu sombre. Et puis discrètement, il y a Paul et Silas qui essayent de se faufiler pour eux aussi trouver la sortie sans se prendre trop de coups avec le remue-ménage. Est-ce ainsi, frères et sœurs, que les choses se passent ? Et ce qui est intéressant ici, c'est le timing de Dieu. C'est la précision du Saint-Esprit. Parce que si Paul et Silas ou les prisonniers étaient sortis, le geôlier, on est d'accord, se serait suicidé. Mais il ne serait pas mort d'une simple mort physique. Il serait mort d'une mort éternelle. Et là, Dieu fait en sorte que malgré les portes ouvertes, Paul et Silas restent. Les prisonniers restent. Et c'est là que le geôlier comprend son besoin de repentance. Il pose cette question, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et quelle est la réponse de Paul et Silas ? Je vous le demande, quelle est la réponse de Paul et Silas ? Oui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Arrivé à cette étape du récit, observons avec attention l'attitude du geôlier. En fait, le geôlier aurait très bien pu dire « Ma conversion, c'est une chose, mais ma situation professionnelle m'en impose une autre. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous laisser partir. Je risque mon boulot et peut-être même ma vie avec celle de ma famille. Il faut que vous compreniez. » Et quelle réaction normale et légitime ? Est-ce la réaction du geôlier ? Laisse-t-il partir Paul et Silas ? Mieux que ça, frères et sœurs. Il invite les évadés dans sa propre maison. Car oui, Paul et Silas se sont bien évadés grâce au geôlier qui les invite chez lui. Il les traite en hôte de marque et la parole se répand dans cette maison. S'ensuit alors des baptêmes. Ici, c'est la diffusion de l'Évangile et ce que peut faire le Christ dans une vie transformée. Comprenez bien la situation. Le geôlier ne fait pas de concession avec l'Évangile. Il n'ouvre pas la moitié de sa porte. Il n'ouvre pas à moitié la porte de son cœur. Il n'ouvre pas à moitié la porte à Paul et Silas de sa maison. Il l'ouvre entièrement. Il se donne complètement au Seigneur, prenant le risque de passer du travail de geôlier au statut de traître pour le Christ. Alors revenons à la question personnelle que pose Jésus à ses disciples et qu'il nous pose encore aujourd'hui. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Qui est Jésus pour toi ce matin ? Comme je disais tout à l'heure, à question personnelle, réponse personnelle. Si la réponse de Pierre ou celle de Jean, même celle de Jésus, est vraie et complète, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour sauver. Car c'est votre réponse qui compte aujourd'hui. Ne laissez personne répondre à votre place pour votre vie. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est votre réponse personnelle. De quel côté de la croix êtes-vous ce matin? Est-ce du côté du brigand qui s'est moqué de Jésus? Ou est-ce du côté de celui qui lui a donné sa vie alors qu'il était au seuil de la mort? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car demain, il sera peut-être trop tard. Alors si comme Pierre, vous dites, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Il ne vous reste plus qu'à accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel, tout simplement. Pour les plus anciens, si vous avez déjà fait cette démarche personnelle, je nous laisse avec le dernier commandement du Christ qui doit être notre première priorité. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.